Vous êtes prête? Ouais? Allez, c'est parti! Carole, je pense que vous n'êtes pas à la bonne hauteur. Il y a trop d'eau là. Rappelez-moi votre prénom. Laetitia. Elle est bonne? Elle doit être à 33. L'eau est à 33 degrés, mesdames. C'est parti. C'est les jambes qui bossent là. Doucement, hein.
Doucement, doucement.
Le principe de l'exercice, c'est de ressentir les choses. Soufflez par la bouche, rentrez, 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 rentrez. Voilà, vous avez vu jusqu'où vous allez? Et là, on a une ouverture complète du périnée antérieur. C'est sentir à quel point, sur le plan mécanique, j'ai les muscles qu'il faut et comment je les fais marcher pour ressentir à un moment donné dans mon travail, quand je parle de mon travail, c'est votre travail de naissance, à quel point ça va vous aider cette posture à mettre au monde votre bébé. Je vais reprendre depuis le départ, d'accord ?
Les eaux d'Annie. Portrait d'une militante de l'aquatique prénatale. Un documentaire de Sandrine Robelin et Christine Robert.
Quel plaisir. J'aime bien la caresse de l'eau. C'est très sensuel, très doux. Là, je touche mon corps, je touche ma poitrine, ma cage thoracique, mon dos. Bizarre, très bizarre. Je suis comme un bébé. Dans le ventre de ma mère.
Le premier enfant, j'avais conscience d'avoir un corps dans mon corps. On a un corps étranger qui dérange. Et ensuite, on attend un bébé. J'allais tous les jours nager. Je sentais à quel point ce bébé que j'attendais et l'eau me faisait du bien. Et ce petit être qui était lui-même dans l'eau, les mouvements qu'il avait dans mon ventre, je me sentais un peu comme les poupées russes dans l'eau. J'étais moi-même une poupée qui contenait une poupée et l'eau était enveloppante. Et c'est vrai qu'il faut 9 mois pour bien comprendre cette transformation et l'accepter. Mais je cherchais un endroit où je pouvais mettre au monde mon enfant comme ma grand-mère m'en avait parlé, sans peur, peut-être avec quelques douleurs, mais dans un mouvement naturel, avec le respect du corps. Et puis, un jour, enfin plutôt un soir, passe à la télévision un merveilleux film de Max Ploquin sur la naissance. Et je suis tombée complètement ébahie devant ce film, émue, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Il fallait qu'on me respecte, puisque j'avais été bafouée en tant que petite fille. En tant que femme, je voulais être respectée. Et je vois à la fin du film l'adresse à Châteauroux, et j'habitais à 500 mètres. Et là, je suis allée à la clinique et j'ai rencontré Max Ploquin. Et ça a été une fantastique rencontre, quelqu'un qui s'est écouté, qui a répondu à toutes mes demandes sans me toucher, parce que les examens gynécologiques pour moi étaient extrêmement difficiles. Il m'a d'abord écouté et il a peut-être mis 3 ou 4 rendez-vous avant de pouvoir m'examiner. Il savait, lui, en tant qu'homme, respecter le corps des femmes. Il demandait toujours l'autorisation de faire un examen. Est-ce que vous connaissez à l'époque, en 73, 74, quelqu'un qui demandait à une femme la permission de lui faire un toucher vaginal à l'époque pour examiner son col, alors que partout ailleurs, une femme enceinte était un utérus qu'on devait vider? Point. Derrière un utérus, est-ce qu'il y a une femme? Non. Pour moi, c'est ça. Et il était le seul à respecter ça, à respecter la femme et le couple. Et là, je me suis sentie complètement portée et très fière d'être une femme. Ça m'a complètement rassurée dans mon corps de femme, dans ce qui allait se passer. Et là, j'ai su que je m'en sortirais avec ma grossesse.
On sait que si on écoute la maman qui va accoucher, si elle nous raconte ses rêves, ses cauchemars, ses actes manqués, on va mieux comprendre où on en est, et on pourra mieux avec elle préparer l'accouchement. Là-dessus, si vous voulez, on peut ajouter que ça s'est répercuté par le langage. Ce langage qui est un langage conscient et inconscient qui vous rappelle toute votre enfance, mais aussi tout ce qui a eu lieu avant l'enfance, tout ce que vos parents, vos grands-parents, tant que c'est vous d'ailleurs, ont eu laissé par leurs mots que vous vivez. Et quand vous êtes enceinte en plus, involontairement, inconsciemment, vous revenez à votre naissance. Vous revenez, comment dit-on ? Comment ? Vous régressez jusqu'à votre naissance. Donc tout ça vous fait revenir des mots qui sont souvent dangereux et qui rappellent votre histoire et celle d'avant.
Annie ?
Oui.
Bonjour. Bonjour Laurence.
Salut.
Je suis contente de te voir.
Oui, toi, je suis en tenue de l'été.
Tu es très belle.
Oh, merci.
Un petit café.
Non.
À Châteauroux. J'étais à Châteauroux. Il y avait le congrès de la Société d'Histoire de la Naissance. Et puis, il y avait un hommage à Max Ploquin. Voilà. Donc,
ce qui doit être bizarre, c'est d'être à Châteauroux sans Max Ploquin.
C'était la première fois que j'y retournais depuis sa mort. Ouais, ça faisait drôle. Ça faisait drôle.
Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré Max Ploquin à la sortie de tes études?
Ça a été un choc. Alors, pas forcément la rencontre avec Max, mais ça a été le contraste entre mes études de sage-femme. Je sortais d'un hôpital où j'avais l'impression, alors j'avais vraiment bossé pour avoir ce diplôme, j'avais l'impression d'avoir acquis un maximum de connaissances et d'être voilà, très, très technicienne et donc performante, et d'arriver à Châteauroux et qu'on me dise « tu laisses tes mains derrière le dos, tu touches pas, tu regardes, tu observes, tu fais rien », et de m'apercevoir que ça se passait bien comme ça et que la plupart du temps, il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Et donc de devoir désapprendre quasi immédiatement, parce que j'ai eu mon diplôme en juin et le 1er juillet, j'étais en poste à Châteauroux, donc d'avoir tout de suite à désapprendre ce que je venais d'apprendre pour apprendre autre chose, qui était vraiment un respect des femmes et de leur physiologie. Et voilà, c'était un autre parcours. Et heureusement que j'ai eu cette chance-là d'arriver, de passer par Châteauroux. Si je n'étais pas passée par Châteauroux, je ne serais absolument pas la sage-femme que je suis maintenant.
Toi, c'était arrivé en juillet. Mmh. Et je suis arrivée fin juillet. J'étais enceinte de ma fille. Et moi, je t'ai connue à ce moment-là.
Ouais. Tu te souviens?
Oui.
La respiration superficielle, la rapide coupée, tu te souviens?
Oui,
de la rapide
je me
coupée
souviens de la rapide coupée.
Ça donne quoi la rapide?
C'était, je me souviens plus comment on la faisait, mais c'était... Donc, si, on comptait. Parce que c'était vraiment très cadré à ce moment-là.
Très militaire.
Les femmes, voilà, il n'y avait pas... On remet le contexte, hein, il n'y avait pas la péridurale, il n'y avait pas de deuxième chance, quoi, par rapport à la douleur. Et donc, les femmes, elles étaient vraiment dans quelque chose, dans la gestion très contrôlée de leur corps. Et quand elles étaient dans des phases un peu chaudes, on leur demandait de respirer donc de façon rapide, un peu ce qu'on a appelé le petit chien après, et on comptait. Et on faisait, voilà, et la sage-femme à côté, elle était 1, 2, 3, 4, souffle, 1, 2, 3, 4, souffle.
C'est extraordinaire ce que ça a marché. Mais oui.
À Châteauroux, j'ai appris à accompagner les femmes. C'est-à-dire que je n'avais pas appris ça avant. Avant, j'avais appris à les surveiller, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à Châteauroux, j'ai appris à les accompagner et on ne les lâchait pas. C'est vraiment le souvenir que j'ai, c'est-à-dire de ne pas lâcher une femme, quoi, jamais. D'être avec elle dans le soutien, dans le contact visuel, le regard, le souffle, le toucher, vraiment de les, voilà, de les tenir, quoi, pour qu'elles passent les caps difficiles. Vas-y, fais avec moi, regarde, voilà, vas-y, souffle plus lentement, voilà. Et puis si c'est plus fort, voilà, vas-y, je compte. 1, 2, 3, 4, tu souffles, allez, encore, on recommence, et voilà. Et c'était une espèce de présence comme ça, tu vois, où on emmenait les femmes. Je ne ferai plus ça avec une femme maintenant, ça ne ressemble plus à rien, mais parce que l'accouchement, c'est aussi un événement social, et ça avait un autre sens il y a 30 ans que maintenant. Voilà, on n'est plus dans les mêmes revendications féminines. Maintenant, la revendication, ça va être dans le lâcher-prise, dans le pouvoir vivre ses émotions, etc. Enfin, c'est d'autres choses. À l'époque, il y a 30 ans, on n'était pas là-dedans.
Notre parcours fait que, ça fait depuis notre rencontre avec Max, on a quand même jalonné notre parcours avec des choses extrêmement fortes. La naissance du groupe Bien-être, créé en 79 sur Nantes. Pendant des semaines, pendant des week-ends entiers, Laurence venait avec les films de Max dans sa valise. On a fait tous les centres sociaux de la Loire-Atlantique, voire plus, tu te souviens. On passait des soirées, on passait des films dans les centres, les quartiers, dans les maisons de quartier. On passait des films, on invitait les gens par affichage à venir voir les films et à discuter après. T'as passé des heures à manager... Les films de Max et à attendre la fin du film, répondre aux questions. Parce qu'au début, c'était Max qui faisait ça. Il est venu 2-3 fois à Nantes avec ses films. Et après, il a dit, moi, je délègue Laurence.
Pour qu'une dame accouche vraiment, pas seulement sans douleur, mais bien, et vous verrez que c'est, quand je dis bien, c'est plus que ça, quoi. Si vous voulez, le principe, c'est de convaincre la maman qu'elle est normale. Et qu'une maman, qu'une dame... Une femme, parce qu'elle est du genre féminin, elle a dans ses attributions, et pas uniquement bien sûr, hein, ne peut pas dire ce que je ne veux pas dire, celle d'accoucher spontanément, celle d'avoir tout ce qu'il faut pour accoucher. Elle n'est pas faite que pour cela, bien sûr. C'est pas un combat féministe uniquement, c'est un combat équilibré entre l'homme et la femme. On n'a pas cette possibilité, mais en ce sens-là, effectivement, les femmes nous sont supérieures, et il faut le reconnaître. Il y a raison d'être macho pour s'en défendre, c'est logique. Si c'est logique, ça veut dire que les mamans ont tout ce qu'il faut. Mais qu'il s'est passé quelque chose dans leur histoire personnelle et surtout collective, dans l'histoire et la préhistoire, qui a fait qu'on a culpabilisé une partie de sa vie.
Ça m'est mieux d'entendre savoir. Voilà.
Pour qu'au moment où les contractions utérines commencent, qui sont des choses normales physiologiques, elles sont empreintes de douleur. L'enfant va démarrer avec vous l'accouchement, la naissance. Parce que bien sûr, personne d'entre vous ne pense
c'est tellement que vrai, son message.
Est immobile, immobile. C'est un être vivant qui participe hautement à sa naissance. C'est pas très connu des médecins, ça. Les médecins, encore maintenant, ne reconnaissent pas que l'enfant participe complètement à sa naissance. Il a bien sûr quelque chose qui est inné, qui est spontané, comme vous êtes maman, comme vous êtes femme, vous pouvez être enceinte et avoir un enfant, le mouvement va se faire de l'enfant qui sort vers son orifice, qui aide la maman à accoucher. Il ne peut pas se faire sans l'autre. Lorsque vous avez convaincu, et que physiquement, physiologiquement, chez thérapie, là, que tout cela se passe, il faut bien penser aussi que cet enfant qui va arriver, il n'arrive pas n'importe comment. Il faut penser aussi à lui tout de suite. Il faut penser que cet enfant qui va naître, il va vous regarder en naissant, va arriver vers vous, ses bras ouverts. C'est le début de sa protection, tout de suite. D'abord parce qu'on va le mettre sur le ventre de sa mère, et que cet enfant qui est en sécurité dans l'utérus, il n'est plus encore en sécurité dehors, mais il voudrait le devenir. Il faut donc absolument lui transmettre quelque chose qu'il attend, qui est une expression particulière, comme, par lequel il est bienvenu, il est bien vu et bien aimé, et il commence à ouvrir ses yeux. Comme il le faut, condition qu'on n'ait pas, qu'on ait eu l'intelligence de ne pas mettre une lampe trop forte dans la salle d'accouchement. Une petite lampe de 25 watts suffit largement. Ensuite, bien sûr, on veillera à ce qu'il ne soit pas emmené dans une salle à côté, loin de ses parents, qu'il ne soit pas mis dans une couveuse, que la salle n'ait pas une température trop froide pour rendre service aux sages-femmes et aux médecins, mais une température réellement constante et relativement chaude. On le met dans un bain, si besoin, juste après il prend un bain d'amour, un bain de tendresse, mais un bain aussi, dans une eau qui va être intermédiaire entre la pose des eaux chaudes et puis la pression atmosphérique diminuée qu'il y aura dans ce bain, mais c'est surtout un premier passage de l'être vivant, un moyen de le protéger, de s'arranger pour qu'ensuite il puisse vivre avec les autres en harmonie, en économie. C'est le début d'énergie vitale, c'est le début d'une hygiène réelle de vie.
Parallèlement, j'avais passé mon diplôme de maître nageur à l'époque. Donc je nageais, j'étais enceinte, j'étais tellement bien. Et j'avais envie de faire quelque chose avec cette grossesse et avec les autres femmes. Un jour, Max Ploquin m'a proposé de prendre en charge dans l'eau. Il avait une petite piscine chez lui, toute petite piscine. Il m'a dit, écoute, si vraiment c'est ton projet, je peux t'aider. Viens chez moi, dans cette piscine, tu peux encadrer un groupe, je serai là, je vais t'aider. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. J'ai démarré comme ça. Cattel, rentrez, je suis à vous tout de suite. Alors, Coralie, vous allez pouvoir y aller au niveau des vestiaires. Merci. Il y a vos certificats.
Voilà. Merci. Alors, Nathalie, comment ça va depuis samedi?
Après l'hypertension, l'hypotension. Voilà, je suis tombée dans les pommes ce matin au CHU pendant ma visite. Du coup, il diminue le traitement hypotenseur.
Pourquoi?
Et parce que mon bébé bouge moins, en fait. Il est moins... Depuis une semaine,
il est plus calme.
Il est beaucoup plus calme.
Trop calme.
Trop calme pour moi. J'aime pas. Ça m'inquiète.
Ça
me contrarie. J'aime pas le sentir. Non, il a ses horaires. Là, il bougeait plus comme d'habitude. Et du coup, je l'ai dit au CHU. Et du coup, ils ont décidé de diminuer le traitement hypotenseur.
Ah, c'est bien. Vous avez été entendu.
Oui.
Ça c'est intéressant.
Voilà.
Qu'un médecin puisse écouter ce que maman dit, puisque en règle générale, les mamans elles sentent bien pour le bébé.
En fait, je rêvais d'un truc, c'est un truc con, mais vous voyez, quand vous voyez j'ai vécu ça depuis le 4e mois, donc je suis au 8e, donc j'ai un peu de recul. Le truc énorme, un nid qui voit, donc c'est jeune femme enceinte là, et qui en voit une, elle fait un exercice et elle dit: ah, vous avez toujours le ventre dur, vous allez accoucher. Et ça loupe pas, en général elle accouche. Et moi, je rêvais d'entendre ça pour moi.
C'est
voilà,
vrai.
Je rêvais qu'un jour vous me disiez: vous avez la tête de quelqu'un qui va accoucher, Nathalie. Ou alors, ah, vous n'avez pas le ventre souple là tout de suite maintenant? Non, je ne l'ai pas souple. Ah, ça va venir, c'est pour bientôt. Je rêvais de ça. Et bien, je ne l'aurai pas. Voilà, il va falloir que je fasse 100. Et ça, ça me peine.
C'est
pas que ça se termine. Hein.
Quoi? Parce que c'est la grossesse?
Ouais, parce que là, c'est pas marrant. Hein. Visite tous les deux jours. Les prises de sang, la protéinerie, les trucs. C'est pas...
Les examens médicaux.
Les examens médicaux, c'est pas marrant, quoi. Je préférais venir à la piscine.
J'ai une question à vous poser, Annie. J'ai eu ma dernière échographie il y a 2 jours. On m'a dit que c'était un gros bébé. Mon terme a été avancé début novembre. Et vous avez parlé du périmètre crânien qui, en fait, pouvait changer. Enfin, qui était important à savoir pour une éventuelle césarienne. Et moi, il est assez important. Il est à 307 mm.
On vous a avancé votre terme, c'est-à-dire on va vous déclencher?
Non, on m'a dit que en fait, la taille du fœtus, c'est une taille du fœtus de 36 semaines au lieu de 32.
Alors stop, on arrête. Vous attendez un fœtus?
Un bébé, mais...
Ah, il me semblait... Ça, c'est du vocabulaire de médical. Fœtus, laissez ça dans le cabinet. Vous attendez un bébé qui a peut-être un périmètre crânien plus important au stade où vous en êtes. Bon, et alors? Pourquoi vous parlez... de césarienne?
Parce que ça me fait peur, parce que j'ai pas le droit à la péridurale et que j'ai d'autres choses.
Oui.
Peut-être des problèmes de saignement qui vont. Si le crâne est important, peut-être que l'accouchement va être un peu plus long. Ouais.
Ce bébé, vous allez le mettre au monde, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Vous, la mère, vous allez devoir accepter cette possibilité.
Ouais.
Déjà, accepter ça, c'est un sacré cheminement, parce que toutes les mamans qui sont là, quoi qu'il arrive, personne ne sait jusqu'où on va aller.
Ouais.
Personne. Vous allez peut-être accoucher par voie basse à X
où Y va avoir un forceps, ouais. vous allez peut-être avoir une césarienne, vous savez que vous ne pouvez pas avoir de péridurale, donc ce sera de toute façon sous anesthésie générale. Ouais, ouais. Et alors, le plus important, c'est quoi?
Non, c'est que le bébé soit bien, surtout.
C'est votre bébé ouais. accueilli. Et puis après, on retravaille sur l'impossibilité de faire autrement. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, Amandine.
C'est un peu stressant, c'est tout. En fait, j'aurais préféré qu'elle ne me dise pas c'est un gros bébé, quoi, en fait. J'aurais préféré qu'elle me dise rien.
Amandine, vous avez le droit de pleurer. C'est pas un gros bébé, c'est votre bébé. Vous allez avoir
un bébé.
Un
beau bébé.
Beau bébé. On est d'accord. Plus loin que je me souvienne, en fait, c'est une histoire de femme de famille. Ma grand-mère était ce qu'on appelait une accoucheuse, une aide-accoucheuse. Elle était extrêmement douée, elle était tout le temps appelée. Elle a travaillé pendant de nombreuses années avec le médecin généraliste de la région qui faisait des accouchements à domicile. Comme c'est elle qui m'a quand même accompagnée dans mes premières années, quelquefois, j'étais avec elle et tous les sujets de conversation autour de la naissance, c'était quelque chose d'habituel. Elle parlait beaucoup de la douleur, d'ailleurs. C'était quelque chose qui revenait souvent. Et quand j'étais petite, je me disais, mais quand je serai grande et que j'attendrai un bébé, moi aussi, j'aurai mal. Et ma grand-mère me disait, mais non, c'est pas... Il y a des choses qui font mal, d'autres qui font moins mal, ça dépend... comment tu es entourée, etc. Enfin, déjà, elle avait un discours très ouvert. On pouvait parler de ça. Elle m'a beaucoup aidée, mentalement, à sortir de tout ça, de toutes mes difficultés d'enfance. Et elle a beaucoup aidé ma maman. C'était sa fille. Et c'était une histoire de femme. Elle avait aussi une grande colère contre les hommes. Elle a été mariée à un homme de 26 ans, donc de 10 ans son aîné, mais ce n'était pas un mariage d'amour. Donc il y avait une espèce de colère qui se transformait en entraide auprès des femmes. Ça m'est resté. Une très grande colère. Et j'en ai hérité. Naissance, donc je suis la première, je suis la fille aînée. J'ai été mise au monde par... je devrais enlever ce « mise au monde par ». J'ai été mise au monde par ma maman, mais c'était ma grand-mère qui m'a mise au monde, en fait. Je pense qu'à chaque fois que ma maman a attendu un enfant, elle avait le sentiment d'être habitée... par un étranger qui lui mangeait son énergie. Je me souviens de ses peurs. Tous les mois, elle le disait, j'aimerais bien ne pas avoir un enfant maintenant, j'aimerais bien attendre encore, j'aimerais bien... Et à chaque fois qu'elle était enceinte, c'était pas forcément une bonne nouvelle. Et la dernière grossesse, ça a été... après l'accouchement de mon petit frère, elle a fait une très très grave psychose. Ce qu'on appelle maintenant une psychose puerpérale. Et c'est à partir de là que je me suis posé la question mais pourquoi la grossesse est une histoire qui peut perdre la mère à ce point-là? C'est difficile pour moi d'en parler parce que mes frères et sœurs... Je suis l'aînée, donc il y a des choses... J'ai préféré ne pas en parler, mais elle a été internée parce qu'elle était, elle avait eu des gestes dangereux vis-à-vis du bébé, vis-à-vis de nous. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec mes petits frères et sœurs en responsabilité. Et ma grand-mère, encore une fois, est venue au secours en prenant en charge le nouveau-né. Et puis, on a été un petit peu dispersés à droite, à gauche. J'avais 9 ans et demi. Là, j'ai perdu toute illusion d'enfance. Je suis passée de l'enfance normale, d'une petite fille normale, à une vie d'adulte. Tout du moins dans ma tête, et pas très loin après dans mon corps. J'étais chez ma grand-mère et j'ai subi un inceste de la part de mon grand-père. Et avec menace, évidemment. Et puis, je ne comprenais pas trop bien ce qui m'arrivait. Je me suis dit, c'est plus mon corps. On m'a manqué de respect. Mais à l'époque, je voulais protéger mes frères et sœurs. Je voulais protéger ma grand-mère que j'adorais. Je pouvais en parler à personne, mais ma réaction, finalement, à l'époque, ça a été la colère. C'est une histoire qui se joue de génération en génération. Donc, la psychose de ma mère, elle n'est pas par hasard. Elle aussi... Je pense a été victime de cette personne, de son propre père.
Vous remettre face à papa, maman. Vous allez caler vos pieds sous les pieds de papa. On remonte en fait l'accouchement à l'envers. Vous vous souvenez, la contraction est ma meilleure amie. Je ne vais pas lutter contre elle, je vais l'accueillir. Inutile d'enfiler les gants de boxe et de mettre les pieds dans les starting blocks. Voyez, du genre, j'attends la prochaine. Surtout les sportives là, hein. Non, papa contre le mur, hein. C'est elle qui a des contractions, elle aimerait bien que ce soit vous, mais on reprend. J'ai une contraction, je la sens qui arrive, j'inspire et je me laisse aller en immersion sur l'expiration. Le temps que vous voulez, le temps nécessaire pour se relâcher sur cette contraction. Donc je commence à souffler quand la contraction commence au-dessus de l'eau, pour se terminer au fond de l'eau. Vous voulez bien me faire ça ?
C'est rigolo. Ça fait comme une sorte de,
je suis
de massage du ventre.
Ah oui, d'accord.
Et le bébé le ressent comme ça aussi, je pense.
Alors,
il bouge.
Vous allez le refaire une seconde fois.
Il bouge un peu en permanence en ce moment. Là, il bouge beaucoup.
Très grave.
Il commence à être vraiment à l'étroit.
Ça bien
là, je le sens vachement, là.
Tu le sens beaucoup, là.
Ah ouais.
Allez, petite mère.
Il se passe quelque chose de plus quand le papa... Alors moi, pour ma part, je leur fais faire exactement le même travail. Le principe, c'est que vous ne pouvez pas exiger de votre femme qu'elle fasse telle ou telle méthode ou telle chose si vous, vous n'êtes pas en capacité d'avoir ressenti déjà ce qu'on exigeait d'elle. Essayez donc. Regardez ce que c'est. Comme c'est difficile de faire ça.
C'était bien.
Messieurs, alors, on remonte dans le temps. Encore. Nous sommes à 4-5 cm d'ouverture de col. On a vécu tout l'effacement. Vous savez, on a détricoté le col, cette longueur de col qui résiste souvent en fin de grossesse. On l'a détricoté grâce à toutes les contractions. Ensuite, on va ouvrir dans la largeur ce col, la dilatation. On commence à zéro, hein, ou à un doigt de sage-femme, pour arriver à 10 cm. Et 10 cm, ça représente quoi dans un volume? Parce qu'on ne parle que de chiffres, mais c'est un volume, un bébé. Un volume dans un volume. Alors, je vais vous demander de me faire ça, maman. Que les femmes, doigts face à face. Écartez bien vos doigts, formez une jolie sphère. Non, que les femmes, surtout, ne leur faites pas peur. Voilà. Ça, écartez les doigts, Alexandrine, sinon c'est pas un beau bébé que vous attendez. Voilà. Regardez, on a le volume de la tête de votre bébé dans ce geste-là. Est-ce que vous voyez ce volume? C'est ce volume qui va passer à travers votre corps. C'est ce volume qui franchit le petit bassin. Ça vous paraît effrayant?
Non, mais j'ai des grandes mains.
Pour l'instant, c'est ce volume que vous devez faire naître. Papa, vous allez jouer le rôle du bébé. Vous êtes à 4 cm de dilatation, maman. Messieurs, vous allez vous engager. Vous préparez à vous engager, pas dans la marine, mais dans le petit bassin de maman. Alors, maman, vous vous mettez contre le mur. Bien droite, jambes légèrement entrouvertes. Parfait. Bébé, messieurs les bébés, vous allez vous faire tout petit, puisque les bébés les plus sympathiques, 80% d'entre eux vont faire ça, vont amener le plus petit côté de la tête, c'est-à-dire l'occiput, l'arrière de la tête, là, la base, en contact avec la symphyse pubienne. Il va se mettre dans l'axe du corps de maman, tête en bas, et il va faire un quart de tour en avant pour s'engager. Donc faites-vous tout petit, messieurs, tout petit. Mesdames, vous avez le droit d'éclater de rire, hein. Regardez comment bébé se débrouille. Maman, à partir de ces exercices, il faut vous éloigner. Tout ça deviendra inutile. Vous aurez oublié tout le discours, ne restera que la sensation du corps. Donc, avec l'eau, moi, j'ai trouvé un chemin, un médiateur pour pouvoir passer le message aux mamans. Regardez comme vous êtes bien, quand vous vous relâchez, avec l'eau chaude, comment vous pouvez contrôler votre respiration. Et là où c'était le plus flagrant, c'est avec les mamans qui avaient peur de l'eau, qui perdent les pieds, qui se sentent submergées, qui n'ont jamais mis la tête dans l'eau, par exemple. Pourquoi ces mamans-là viennent se préparer dans l'eau? Et ça fait longtemps que moi, je me suis aperçue que le challenge qu'elles se donnaient, pas qu'elles je leur donnais, hein, qu'elles se donnaient, c'était « je me contrôle, je contrôle la peur que j'ai de l'eau, ça va m'aider à mieux contrôler la peur que j'ai de faire naître ou d'accoucher. » L'accouchement, ça a été une étape, je m'étais préparée pour être au plus près de mon projet de naissance. C'était dans ma tête le projet de naissance, hein.
Mais l'expulsion a été très violent pour moi, extrêmement violent. Où là, a ressurgi, mais d'une manière très 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 violente, l'irrespect qu'on m'a infligé quand j'étais petite. Tout est revenu, comme une bouffée d'horreur pendant cette expulsion. Ça a été très dur en post-accouchement, après. Dans ce qu'on appelle le postpartum, ça a été difficile parce que là, je venais de comprendre que la relation entre ce que l'on est en tant que femme et ce que l'on a été en tant que fille, petite fille, jeune fille, tout est revenu. Les souvenirs, le dégoût, l'irrespect. Là, vraiment, ça a été difficile. Et grâce à Max Ploquin et surtout aux sages-femmes de Max, aux filles géniales que j'ai rencontrées, dans le postpartum, on était très entourés à l'époque. On restait 8 à 10 jours à la maternité. On avait le temps de s'installer dans la maternité, dans l'allaitement. On avait le temps de s'occuper du bébé. On avait le temps. On n'a plus le temps maintenant pendant les séjours. Et on était très entourés. J'ai été très entourée, heureusement. Heureusement, et mon compagnon était à la hauteur de la situation. Et c'était bien d'être deux autour de ce premier bébé. Mais là, il y a eu le déclic. Là, j'ai compris qu'on était enceinte, on accouchait avec ce que l'on était. On ne pouvait pas mentir, on ne pouvait rien cacher en salle d'accouchement, on était vrai.
Et à ce propos, regardez.
Ça, c'est un film de Max.
Max, il était très bon pour mettre de la musique dans ses films, toujours. C'était, voilà.
Voilà.
C'est une pub pour l'accouchement sans péridurale, la naissance de Charlotte.
Et puis en face d'elle, il y avait ce grand miroir.
Voilà. Et Max. Ébouriffé. Normal. Voilà, le papa, attentif. Voilà. Le cœur du bébé qu'on écoute, pas forcément avec un monitoring branché en permanence. Et là, elle pousse et on voit son regard et on voit qu'elle est en train de regarder dans la glace ce qui est en train de se passer. Et elle dit ça va, on ne l'entend pas, mais on le lit sur ses lèvres.
Quel beau
elle
visage.
Elle dit ça va. Ouais. On sent qu'on n'est pas dans le contrôle.
Regarde,
voilà.
Regarde.
Elle voit son bébé dans la glace en face, le haut, voilà, et elle rit déjà. Et on voit à peine le haut du crâne. Et... Elle a la main sur la tête de son bébé qui est en train de sortir. Voilà.
Et regardez la sage-femme, les bras croisés.
Un grand, grand sourire sur le visage. Voilà, alors que la tête est à moitié sortie. Voilà.
Je pense que là, Max a dit souffler. Hein, tu l'entends ? Souffler, parce que bon, elle a un contrôle de son périnée qui est incroyable. Et il n'y a que les mains de la maman hein, sur la tête du bébé, il n'y a pas d'autres mains. Elle s'accouche toute seule.
Et la tête est en train de naître. C'est beau, hein?
Okay. Non, mais c'est
voilà.
Visage.
Et puis elle est radieuse toujours. Voilà, la tête est en train de passer et elle est toujours aussi radieuse. Et là, elle regarde son bébé naître et elle est explosée de joie, quoi. Voilà. Voilà, l'épaule qui est en train de sortir. Voilà, et elle est hilare tellement elle est heureuse. Voilà.
Et papa.
Et le papa qui accueille son bébé. Voilà.
Regarde.
Et elle referme les bras autour de son bébé.
Parce voilà. que les cris qu'on entend, voilà. c'est pas des cris de douleur. Hein. Le bébé est né, elle explose de rire. On a tous envie d'accoucher comme ça.
Non, moi ça m'épate encore de voir un bébé naître. Ouais.
J'ai encore une nouvelle chose pour vous.
C'est un peu la, le sac de Mary Poppins.
Ah ça. En fait, c'est le livre qu'on a coécrit après de nombreuses heures avec tous les usagers du groupe Bien-être. C'était le contrat qu'on aurait bien aimé passer entre un établissement qu'on a rêvé.
Voilà, c'est, ils ont rêvé à l'époque, parce que j'y étais pas, mais ils ont rêvé une maternité idéale. Pas encore, je suis arrivée juste après. Ils ont rêvé une maternité idéale, une maternité pensée par les parents, telle qu'ils la souhaitaient. Et ça s'est presque concrétisé dans la maison de la naissance à Saint-Sébastien.
Oui.
Voilà, ça a été très très proche de ce rêve de maternité idéale.
On a commencé, dès que l'association Bien-être a commencé à bien être connue, on a commencé à l'écrire.
Et il y a des phrases qui restent très justes. Enfin, c'est la femme qui est maîtresse de son accouchement et aucune décision ne peut donc être prise de façon unilatérale par l'équipe médicale concernant le processus de la naissance. Voilà, c'était des choses qui...
C'est
des combats qui restent vrais.
Nul n'a le droit de dicter à la mère la manière d'accueillir son enfant. Nul n'a le droit de venir troubler cette seconde inoubliable où les yeux de la mère, découvrant enfin son enfant, se posent sur lui. C'est la femme qui vit son accouchement. C'est elle qui en gardera les souvenirs les plus marquants, négatifs ou positifs. Elle doit donc avoir la possibilité de préparer l'accueil de son enfant, de se préparer. Et c'est surligné et en gros, se préparer. Ça veut dire soi-même. Ce sont des phrases qui n'ont pas pris une ride. Et c'est un soir, par hasard, comme Max Ploquin était venu avec Laurence... avec une soirée débat, avec film. Et ça s'est terminé chez moi, à la maison. Il y avait quelques personnes du groupe Bien-être. Et Max, on était en train de manger, et Max nous dit « Mais pourquoi vous n'achetez pas votre maternité ?» Et là, on s'est dit « Mais comment est-ce qu'on peut faire ? Je ne vois pas comment. » Et il me dit « Moi, j'ai un copain qui prend sa retraite, le docteur Grésillon, à l'époque. Il vend sa maternité. Vous devriez le rencontrer. On ne sait jamais, ça peut l'intéresser. » Fantastique. Dès le lendemain, Michel Bourse, André Javaillon et moi, on est allés directement prendre rendez-vous avec le docteur Grésillon, et qui nous a dit « Écoutez, votre projet m'intéresse, c'est un petit peu dans la même lignée, j'aimerais bien laisser ma maternité pour prendre ma retraite à des gens qui seraient capables de faire survivre ce projet. » Il dit « Je vous laisse la priorité, trouver des fonds. » Et on a rencontré les mutuelles de Loire-Atlantique à l'époque, qui ont trouvé notre projet intéressant. Et ça s'est fait comme ça.
Alors, depuis ce matin, sont nés June, Oscar, donc Eleanor, Noah, Luna, Inès.
Elle a des contractions un peu ?
Alors, Isabelle,
sur le vif, hein.
Elle était à 8 dans le bain, à 8 cm. Et puis je l'ai fait sortir un peu parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas écouté le bébé et j'arrivais pas bien à l'écouter dans l'eau. Et puis elle était en fait à dilatation complète. Voilà. On a rompu la poche des os parce que voilà, elle bombait bien et puis voilà, elle avait besoin que ça se termine aussi. Et puis très vite elle a eu besoin de pousser. Et puis voilà, elle a poussé, ses contractions sont un petit peu espacées là au moment là. De l'expulsion, donc c'est pour ça qu'on s'est laissé du temps, le bébé allait très bien.
Elle était bien dans le bain, hein.
Oui, elle était très bien, oui. Ça l'a beaucoup soulagée en fait, elle était plutôt désireuse de faire sans péridurale, mais bon, il y a un moment, là, à 8 cm, elle était un petit peu dans le doute aussi, et puis voilà, moi j'étais très en confiance avec ses capacités, et je lui ai proposé d'aller dans le bain, en sachant que voilà, elle pouvait aussi y renoncer à un moment ou à un autre, puis opter pour la péridurale, puis elle s'est sentie très très bien dans le bain.
Et t'avais voilà. mis tes petites huiles essentielles.
Voilà. Oh, et, ouais. puis, elle en est sortie à dilatation complète, en fait. Hein.
Ah oui, donc c'est un accouchement sans péril jusqu'au bout.
Ça s'est très bien passé. Ça,
hein,
bah,
oui,
c'est déroulé très très bien.
Bon, bah, écoute, voilà.
Merci, ça c'est une belle histoire. Le papa était très présent aussi, enfin, l'a beaucoup aidé. Ça s'est vraiment passé dans une forme de sérénité, quoi, de calme. Voilà, donc je vais aller les rejoindre. Hein, on les laisse un petit peu ensemble, tous les trois, mais on va quand même aller voir ce qui se passe dans la salle d'accouchement.
Je viens de voir la sage-femme et la nounou courir. Donc là, c'est bon. Tout le monde est sur le pont. On sait que ce cri correspond tellement à la naissance que quand tout d'un coup, il y a un grand silence, on sait que la maman a terminé son travail corporel et qu'elle a, ça y est, c'est fini. Elle attrape le bébé et puis il est né. On entend. Elle n'a pas fini, elle pousse. Ferme la porte.
Au stade où on demande à la femme de faire comme ça. La naissance est imminente. Il faut un moment où il faut que la dame accepte passer au-delà de ses douleurs pour accepter de pousser. Alors en poussant, ça fait mal. Et en même temps, ça soulage. C'est un petit peu...
On peut donner un petit coup d'eau de sérum sur les yeux,
ouais.
Avec une petite compresse. Il en restait.
Oui, il en restait un peu. Super. Oh, bah là.
Vous avez quelques appréhensions là avant de le baigner?
Ah oui, c'est la première fois.
Voilà. Ouais. Il s'appelle comment?
Isaiah.
Salut Isaiah. Comme tu es beau.
Il a un jour.
Ouais. Il est né à 17h50 hier soir.
Il est bien.
Il est tout calme.
Oh, voilà. Je vois qu'on est bien dans l'eau. Oh oui. Les bouchons d'amour. Mmh.
En étant dans l'eau, ça m'apaise. Ça éloigne de moi la colère. J'ai plus de colère dans l'eau. Pour moi, l'eau, c'est la mer. Avec un E. Pour moi, c'est féminin. L'eau, c'est féminin. L'eau, ça porte, ça rassure, ça protège. Et puis, ça peut être dangereux aussi. Une mer peut être dangereuse. On peut pousser un cri dans l'eau, éloigner la peur.
Les eaux d'Annie. Portrait d'une militante de l'aquatique prénatale. Avec Annie Benet et Laurence Platel, Max Ploquin, les femmes et les hommes préparés par Annie, Nathalie, Catel, Alexandrine, Amandine, l'équipe de la maison de la naissance de la clinique Jules Verne, Isabelle, Rosen, les parents d'Isaïa pour son premier bain et tous les heureux parents et leurs nouveau-nés. Merci aux femmes fortes, aux parents en devenir, aux sages-femmes à l'écoute, parmi elles Marilyn, Claire, Laurence, Isabelle, à l'association Bien-être de Nantes, à la clinique Jules Verne, à la clinique Montaigne de Châteauroux, à Isabelle Ploquin, Roland Renard, Bruno Audoucet et Sylvain Moreau pour les archives de Max Ploquin. Prise de son, François Rivalan, mixage Stéphane Desmoux. Attachée de production, Christine Bernard et Eve Etienne. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Sandrine Robelin, réalisé par Christine Robert pour Sur les Docs.